dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Liban-Palestine, témoignage d'un même espoir de paix.
Avec Maria et Fahadi, Libanais exilés.
Sur dissonance.
Mais je me suis échappée, on est monté en voiture, on a traversé le Liban vers le nord, puis toute la Syrie, et on a pu prendre l'avion avec mon ami et sa famille en Amman, en Jordanie. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, ce voyage-là, parce que mes parents étaient restés à Beyrouth et que...
L'histoire, elle est une histoire banale. C'est la guerre qui vous fait partir, et quelle que soit votre appartenance politique, religieuse et autre. Nous espérons simplement qu'on puisse vivre ensemble, en paix. Hein, une paix stable, une situation socio-économique qui revient, avec l'entité de toute la terre libanaise entière, et avec toutes les confessions et tous les partis, qu'ils soient de gauche et de droite.
C'est une guerre contre les enfants, comme dit Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. C'est une guerre contre les enfants. C'est un cimetière d'enfants, Gaza.
Dans le cadre de la guerre entre l'État d'Israël et les Palestiniens de Gaza, des affrontements frontaliers opposent, dès le 8 octobre 2023, l'armée israélienne et le Hezbollah basé au Liban. Le 23 septembre 2024, Israël bombarde massivement le Liban et effectue des opérations terrestres dans le sud du pays dès le 30 septembre. Le 27 novembre, un cessez-le-feu est prononcé.
Pour les Libanais, cette nouvelle guerre est vécue comme un drame de plus, dans une histoire jalonnée de tensions et de poussées de violence.
Rappelons, pour mémoire, quelques dates importantes pour le Liban.
1920. Le Liban est sous protectorat français. 1943, le Liban conquiert son indépendance.
En 1948, c'est la bataille de Palestine, une coalition de pays arabes contre l'État d'Israël pour tenter de récupérer la Palestine. Suite à cette guerre, les Palestiniens sont chassés de leurs terres et plus de 200 000 exilés palestiniens trouvent refuge au sud Liban et à Beyrouth. Le Liban devient ainsi l'épicentre de la résistance palestinienne avec notamment la présence de l'OLP, Organisation de Libération de la Palestine, de Yasser Arafat.
1975, c'est l'irruption d'une guerre civile qui va durer 15 ans.
1982, invasion d'une partie du sud Liban avec l'opération militaire israélienne appelée Paix en Galilée. Invasion qui succède aux attaques de l'État d'Israël contre le Liban en 1969 et 1978 et qui précède celles à venir en 1993, 1996, 2006 et 2024.
1982 toujours, c'est le massacre de civils palestiniens au camp de Sabra et Shatila. Et l'état-major de l'OLP et ses combattants quittent le Liban.
L'agression de 2024 a fait plus de 4 000 morts et 16 000 blessés, en majorité des civils, en 13 mois de conflit, selon le ministère libanais de la Santé. Et 1,4 million de Libanais ont dû quitter leur foyer en raison de la guerre.
Rappelons que le Liban, un pays aussi petit qu'un département français, est peuplé de 5 millions d'habitants, dont près d'un million à Beyrouth, la capitale.
Ce pays a longtemps été considéré comme la Suisse du Proche-Orient, un pays où il faisait bon vivre, à condition bien sûr de faire partie des élites.
Un véritable carrefour des peuples, des civilisations et des cultures. Un pays où se côtoient l'Orient et l'Occident.
Liban-Palestine, témoignage d'un même espoir de paix.
Avec Maria et Fahadi, Libanais exilés.
Sur dissonance.
À notre micro aujourd'hui, Maria de Paris par téléphone et Fahadi dans nos studios.
Maria et Fadi sont deux Libanais qui ont quitté leur pays.
Alors que le Liban vient de vivre pendant 86 jours une xième agression de l'État d'Israël, Maria et Fadi vont nous dire aujourd'hui leur espoir pour ce pays et notamment pour les Palestiniens voisins de la bande de Gaza.
Si Palestiniens et Libanais ont à souffrir des rêves du grand Israël de l'État de Netanyahou, ils partagent en commun l'espoir d'une vie en paix, sans guerre, sans agression et dans le respect du droit international.
Cet enregistrement a été effectué le 18 décembre 2024. Maria évoque ici le docteur Hossam Abou Saya, directeur de l'hôpital Kamal Adwan. Depuis cet enregistrement, ce médecin a été arrêté par l'armée israélienne. Le premier à se lancer, c'est Fadi, qui nous parle de la genèse de son histoire.
Alors c'est l'histoire de beaucoup de Libanais, une enfance heureuse, j'étais dans une école, tout se passait bien jusqu'au jour où la guerre a commencé, on était jeunes, on ne savait pas pourquoi, qui, comment, qui se bat contre qui, et la situation a commencé à dégénérer de plus en plus, le chaos. Au fur et à mesure que le temps passe, nous avons perdu une première année scolaire, une deuxième année scolaire, où à ce moment-là, les parents disent « Écoute, on a de la famille dans un pays européen, donc la France. On les contacte et on prend la décision, mon père a pris la décision, de partir en France. Lui, il est resté là-bas, nous sommes tous partis en France. Et j'ai fait mes études et j'adore ce pays parce que ça ressemble beaucoup géographiquement aux endroits que j'ai vécu quand j'étais jeune. » Et donc, l'histoire, elle est une histoire banale. C'est la guerre qui vous fait partir. Et quelle que soit votre appartenance politique, religieuse et autre, ça, j'aimerais bien que les personnes qui nous écoutent, qu'ils le sachent très, très bien. Parfois, on entend les personnes âgées qui ont connu la guerre mondiale. Nous, les Libanais vivant en France, et ces personnes âgées qui ont connu la guerre, on a plus ou moins les mêmes discours. Entre les deux, on aimerait bien que les personnes qui nous écoutent comprennent, la guerre c'est affreux. Quand on quitte, mais on ne sait pas si on va revenir, voilà.
Tu es donc un exilé comme les exilés aujourd'hui qui ne quittent jamais leur pays par plaisir.
Absolument. Exilé comme tous les Libanais, quand on est Libanais, je pense même quand on est Palestinien, et même aujourd'hui quand on est Syrien, on a une valise à côté, prête pour partir, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, et bien parfois sans même la valise, voilà.
Est-ce que tu as encore de la famille qui reste au Liban ?
Alors, j'ai quelques personnes encore de ma famille qui vivent là-bas. Évidemment, depuis le temps qui est passé, il y a des personnes que je n'ai pas connues. Et c'est une des souffrances supplémentaires parce qu'au Liban, les relations interfamiliales sont quasi de l'ordre du sacré. Alors, ça fait drôle quand on se retrouve dans une fête où on doit nous faire les connaissances des uns des autres parce que X années nous ont séparés les uns des autres. Donc, reste une petite partie de la famille au Liban et de temps en temps, nous prenons de leurs nouvelles, voilà.
Bonjour Maria, Maria de Paris, tu es née au Liban et tu es très investie dans le soutien au peuple palestinien. Mais avant d'aborder ton implication dans cette lutte, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance au Liban, de ce qu'est pour toi ce pays ?
Oui, bien sûr. Donc je suis née au Liban de parents libanais, j'ai une grand-mère belge. Donc j'ai deux langues maternelles, l'arabe et le français. Et j'étais dans une école bilingue, donc j'ai l'anglais aussi, j'ai beaucoup de chance. Voilà, sinon j'ai fait une licence en biologie à l'université américaine de Beyrouth. Et puis je suis venue en France avec, je ne pouvais plus de la guerre, ça faisait 10 ans que la guerre du Liban a commencé en 75 et j'ai quitté en 84.
Depuis dimanche, Beyrouth est une ville folle, folle de violence et de peur. Pour le comprendre, il suffit de savoir que chaque quartier est un bastion politique et que chaque famille est armée. Aucun quartier n'est à l'abri de cette violence imprévisible. Les rares voitures qui circulent sont suspectes et courent des risques énormes. Des barrages s'improvisent et tirent sans sommation.
Mais j'ai pu sortir avant le siège de Beyrouth et on a dû sortir par la terre. L'aéroport était déjà fermé, bombardé par les Israéliens. J'ai vu leurs chars, leurs bateaux en face de notre d'où je vais à la plage, les avions, les murs du son. c'était déjà, tout était déjà là. Mais je me suis échappée, on est monté en voiture, on a traversé le Liban vers le nord, puis toute la Syrie, et on a pu prendre l'avion avec mon ami et sa famille en, à Amman, en Jordanie. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, ce voyage-là, parce que mes parents étaient restés à Beyrouth, et que le lendemain de mon départ, il y a eu les petits papiers qui disaient que, qu'ils allaient encercler, qu'ils allaient fermer, siéger Beyrouth et commencer les bombardements, que les gens devaient partir, alors que c'était fermé.
Et tu as encore de la famille là-bas au Liban alors ?
Ah oui, oui, j'ai ma sœur surtout. Mes parents, on a fait un regroupement familial avec mon frère. Mes parents sont là à Paris, pas loin de moi. Mon frère aussi, mais ma sœur est toujours dans notre maison au Liban. Et j'ai mes cousines, j'ai des tantes, j'ai des, plein d'amis. Notre quartier a été bombardé là en, aux dernières attaques, avant le cessez-le-feu, à 2 minutes à pied de notre maison. C'est... Le Basta et Marlier, c'est 2 rues après nous.
Est-ce que cette xème invasion là, de 2023, t'as étonné, toi qui as connu les précédentes invasions, puisque tu étais enfant et déjà il y avait la guerre civile et certainement d'autres invasions, d'autres agressions israéliennes sur ton pays ? Ça t'a pas étonné ? Du tout ?
Qu'ils re-rentrent ?
Oui.
Rien ne m'étonne d'eux.
Rien ne t'étonne ?
Non.
D'accord.
Ils considèrent tous les pays autour d'eux leur propriété.
Ouais.
Donc là, le cessez-le-feu, c'est une grosse blague. Le cessez-le-feu n'est que d'un côté.
D'accord.
Eux, ils ont fait, là je lis ce matin, 258 frappes.
D'accord.
Alors, ce cessez-le-feu, et puis il y a eu une fois une riposte de Hezbollah. Oh, ça a été les Léola, comment ils ont brisé le cessez-le-feu. Ils sont avec leur mur de son, ils survolent le Liban avec leurs avions, ils envoient des drones avec un son insupportable, ma sœur me dit, jour et nuit parfois, une surveillance. Ils ont le droit, mais c'est ce qu'ils avaient dit. Il y avait une lettre secrète entre Américains et Israéliens que nous, le cessez-le-feu, nous on va l'implanter avec le feu. Et on veut faire ce qu'on veut, on veut pas avoir un passage illimité dans le Liban. Avoir comme ils veulent faire à Gaza, comme ils veulent faire en Syrie.
Est-ce que, Fadi, depuis que tu as quitté le Liban, tu es revenu? Et quelle différence, si tu es revenu, quelle différence tu as trouvée depuis ton départ?
Alors là, c'est un sujet énorme. On va le résumer parce que le temps ne le permet pas. Au départ, quand je suis arrivé en Europe, je suis resté, je pense, 9 ans ou 10 ans sans retourner, où mon père disait non, c'est pas encore le moment.
Ton père était resté là-bas ?
Mon père était resté là-bas, effectivement. Il voulait pas quitter les siens, il voulait pas quitter son travail, il voulait être utile pour les autres, voilà. Donc, et à l'époque, il n'y avait pas les téléphones comme maintenant, les GSM, donc les relations étaient difficiles. Mais bon, ça s'est passé. Et dans les années 90, nous avons recommencé à retourner au Liban à peu près une fois tous les ans ou tous les 2 ans. Et beaucoup de choses ont changé. L'aspect des gens, le visage, le physique, l'appartenance confessionnelle qui a fait pas mal parler d'elle au Liban, je trouve qu'elle s'est renforcée. Et alors que je suis d'une famille laïque, d'une famille où il y a des mélanges de 3 ou 4 religions minimum, je sais, ce n'est pas une chose typique au Liban, mais ça existe, on est nombreux. Et donc, on a été élevés sur la base de la tolérance et l'échange, et qu'on soit laïque, qu'on soit athée, qu'on soit libre penseur, qu'on soit chrétien, musulman, juif ou autre. Mais dans les années 90, et au fur et à mesure que j'allais là-bas, je voyais qu'il y a un genre de regroupement. Chaque confession se regroupait autour de personnes qui sont influentes. Donc quand on est chrétien, c'est telle famille. Quand on est musulman, c'est telle famille, etc. Et ils oublient tous une chose, et ça je voudrais le dire à l'antenne. Au summum de la guerre du Liban, on avait un certain monsieur qui s'appelait Kamal Jumblatt, qui était druze de confession, mais très laïque. Je pense qu'il avait même médité avec Gandhi à l'époque. Et ce monsieur a été d'une confession druze. Il a été assassiné. Par la suite, on a eu, entre guillemets, le summum comme un homme d'une confession on va dire chrétienne, qui était M. Bachir Gemayel, qui était même le président du Liban pendant très peu de temps. C'était le frère de M. Amin Gemayel, qui aussi a été assassiné, comme Kamal Jumblatt. Par la suite, on a eu le premier ministre, M. Hariri, qui avait fait pas mal de choses sociales au Liban et qui était un ami au M. le président Jacques Chirac. Il a été également assassiné. Et pour le dernier, actuellement, récemment, vous l'avez tous vu et entendu, le chef de Hezbollah, qui est M. Nasrallah, le summum comme personnalité des chiites, il a aussi été assassiné. Donc ma question, quand est-ce que les Libanais vont comprendre que ça suffit ?
Palestine, témoignage d'un même espoir de paix.
Avec Maria et Fahadi, Libanais exilés,
sur Dissonance.
Tu évoques, tu viens de dire le mot Hezbollah. Le Hezbollah, c'est un parti qui n'est pas un parti laïque. Ce sont des Palestiniens qui essaient de se battre pour que la Palestine soit libre et qui résident au Liban.
Alors, dire Palestinien, je dirais que non, ils sont des Libanais. Maintenant, je ne suis pas ethnologue. Il y a eu beaucoup de mélanges et il se trouve que Hezbollah se trouvait essentiellement au sud du Liban et dans la plaine de la Bekaa. Mais ce sont des personnes qui se sont mélangées avec des Palestiniens. Et puis quelque part, leur destin est plus ou moins, ils considèrent que c'est le même. C'est-à-dire que les attaques de l'armée israélienne qui durent depuis des années. Et puis pour un oui, pour un non, on entre, on sort dans le sud du Liban. Les dirigeants israéliens qui ne cachent jamais leur volonté de vouloir encore prendre de leur territoire, en fait du territoire libanais tout simplement. Notamment, là, il y a un endroit qui n'est toujours pas évacué ni libéré, c'est les fermes de Shabaa, etc. Donc il y a une ressemblance dans le destin, mais je ne dirais pas les mêmes.
Est-ce que toi, enfant, tu as côtoyé les communautés palestiniennes ?
Alors, j'en ai connu quelques personnes, je veux dire, à l'école, simplement. Et j'ai connu quelques endroits. On était très petits quand on entrait. Ça se voyait tout de suite par l'aspect. On voyait beaucoup de linge sur les balcons. On voyait des enfants qui couraient, qui venaient demander une pièce. Mais en même temps, quand les parents partaient dans un concert ou une conférence, c'était époustouflant de voir le niveau de Palestiniens éduqués avec des diplômes, mais vraiment, vraiment au plus haut niveau. Donc, il y avait les deux choses qui existaient en même temps. Donc, le Palestinien pauvre qui cherche une pièce dans la rue et le Palestinien bardé de diplômes à l'université américaine ou autre. Et donc, j'en ai connu peu. À l'école, j'en ai connu. Et pendant la guerre, le début de la guerre, nous étions tous des enfants. On ne savait pas qui était Palestinien, qui ne l'était pas. J'ai des souvenirs que je n'ai pas envie de relater ici, où des enfants palestiniens ont été montrés du doigt, parce que c'est à cause de vous qu'on a eu les problèmes, etc. Comme si nous, on était des gens vraiment au-dessus de tout soupçon. Je pense qu'on a fait notre part aussi de bêtises.
Et justement, Fadi, au début du conflit, les médias laissaient croire que les Libanais allaient être exaspérés par le Hezbollah et cette communauté palestinienne qui faisait que leur pays était bombardé. C'est le cas. Est-ce que tu penses que la question palestinienne divise le peuple libanais?
Alors, c'est une question extrêmement importante. Je vous remercie de me l'avoir posée, mais elle est à elle seule. Elle a besoin d'une émission entière. En gros, le Liban, l'intérieur du Liban, a des problèmes, on s'en doute. Et les problèmes de l'intérieur du Liban se nourrissent des problèmes qu'il y a à l'extérieur du Liban, de plusieurs pays, plusieurs influences. Donc la question palestinienne, elle rassemble tout le monde et elle divise tout le monde. Sauf que les forces étrangères, entre guillemets, et même certaines fractions libanaises, ont toujours travaillé sur la division. Donc le palestinien devenait un problème divisant. Et quand ça rassemblait, ben, on ne l'exploitait pas assez. Donc c'est quelque chose qui est présent. Toutes les fractions, à un moment donné, toutes les combines, statistiquement parlant, ont été jouées. À un moment donné, les sunnites ont combattu avec les chrétiens, les sunnites avec les chiites, etc. Donc voilà. Mais le départ, c'est un Palestinien qui perd son pays. Et plus, par la suite, c'est probablement le Liban qui va perdre, ou voir la Syrie. Et récemment, nous avons vu des dirigeants israéliens qui ne se cachent pas de leur projet, qui met à mal que ce soit le sud du Liban, voire le Liban entier, et même la Syrie. Et vous avez pu le voir sur les télévisions, notamment étrangères, israéliennes ou autres, et même en France, il y a des dirigeants qui relatent ce projet qu'ils ont. Donc voilà, c'est un problème extrêmement grave. J'ai envie de vous dire, oui, ça divise les Libanais, mais en même temps, ça les rassemble, et on a exploité davantage la division, voilà.
Le problème des Libanais, c'est avec leur division, c'est par rapport au soutien que le parti Hezbollah a voulu donner aux Palestiniens de Gaza en faisant des frappes du sud Liban pour alléger. C'est compliqué pour que les frappes sur Gaza soient allégées, qu'on défend les Palestiniens de Gaza. Ça, c'était le discours de Hassan Nasrallah qui a été assassiné par les Israéliens, bien sûr, en faisant tomber, je ne sais plus, 7 immeubles avec plein de civils dedans.
Qui était responsable du Hezbollah. Donc en fait, ce n'est pas tout à fait la question palestinienne qui divise, c'est plutôt l'histoire, enfin la question du Hezbollah, c'est ça.
Mais la division n'est pas religieuse. Hein. Là, il y a des chrétiens disons, le Liban est divisé entre chrétiens et chrétiens, musulmans et musulmans. C'est assez complexe, disons. Oui, oui. Il y a deux groupes mélangés.
Oui, oui,
et l'un des groupes est plutôt pro-Hezbollah, qui est pro-palestinien, disons. Et l'autre groupe, surtout les forces libanaises, sont complètement anti tout ce qui peut avoir rapport avec une aide aux Palestiniens ou le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est un mouvement religieux. Moi, je suis complètement athée. Ah. Donc, je ne peux pas adhérer à un, quel qu'il soit, même si c'est une résistance et que c'est les premiers qui ont pu mettre les Israéliens en dehors d'un territoire arabe. Donc, il a plusieurs facettes, le Hezbollah, disons.
Tout à fait.
Mais c'est sorti ils sont sortis après l'invasion. En 82, après l'invasion israélienne, et c'est là que le Hezbollah est né.
Tu as évoqué un projet de l'État d'Israël, ça serait le projet du Grand Israël, avec une partie de la Syrie, une partie du Liban?
Tout à fait. Récemment, sur les télévisions israéliennes, il y avait des dirigeants, je ne veux pas vous dire les noms, mais bon, vous les retrouvez. Ils passaient devant les caméras avec la carte géographique en main, carrément. Une des images que je me souvenais, quand il y a eu le cessez-le-feu du Liban, quand M. Amos Hochstein était en Israël, entre lui et le ministre de la Défense, il y avait une photo. Un tableau, si mes souvenirs, je n'ai pas les images devant moi, mais ceux qui l'ont vu, ils peuvent voir, c'était la carte du Grand Israël de quelle il parlait.
Et les frontières du Grand Israël, ça serait quoi?
Oula, je ne les connais pas beaucoup. Eux, ils disent jusque l'Iran. mais en tout cas, ça englobe le Liban, la Palestine, la Syrie, la Jordanie, l'Irak. Alors, jusque l'Iran, je ne sais pas. Ça, c'est une nouveauté que j'ai découvert grâce à la, ou à cause de la guerre de 2024.
28 septembre 2024, Dominique de Villepin est l'invité du JT de TV5 Monde.
Mais la question qui est sous-jacente derrière ce but affirmé, c'est davantage, à mon sens, l'ambition de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement d'aller plus loin. C'est de mener à la fois ce que certains qualifient de la grande guerre, c'est-à-dire frapper l'axe de la résistance. L'axe de la résistance, c'est le Hamas, bien sûr, c'est le Hezbollah, ce sont les milices chiites en Irak.
Les outils au Yémen aussi.
Ce sont les outils du Yémen. Et c'est le grand leader iranien, donc aller beaucoup plus loin. Et derrière Benjamin Netanyahou, ne l'oublions pas, il y a un gouvernement marqué par la présence de certains grands fondamentalistes ultra-religieux, Smotrich, Ben-Gvir, qui eux ont un autre rêve, non pas tant de la grande guerre que du grand Israël.
Est-ce que tu penses, Fadi, que la question libanaise est indépendante de la question palestinienne ?
Je pense que c'est impossible, même si beaucoup fantasment sur la volonté de vouloir séparer, puisque tout à l'heure on parlait du projet israélien, ben il englobe le Liban. Donc comment séparer si on est deux peuples l'un à côté de l'autre et on a le même sort ? Ou du moins pour certains, nous devrions avoir le même sort. Ça me semble difficile. Certains, ils ont cru à ça, mais on voit que non. La dernière guerre, on a dit, bon, ne nous mêlons pas de ça, c'est pas notre problème. D'accord, mais je ne suis pas sûr qu'on va venir créer au Liban une zone d'alliés et la faire un petit peu à la principauté de Monaco, qui est magnifique, et mettre à la tête un prince comme le prince, etc. Donc voilà, je ne pense pas que c'est séparable, ni plus ni moins du problème syrien, puisqu'on fait partie du même projet. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent, c'est les Israéliens qui le disent. Et mon sentiment, et j'espère, et je pense qu'il y a des Israéliens qui pensent, où je partage un peu leur pensée, tous les Israéliens ne veulent pas de ce projet. Je précise, tous les Israéliens ne veulent pas si malheur que ça pour le Libanais, le Syrien, etc. Certains ont dit, voilà, on a créé un pays, on reste là, et on a essayé, souvenez-vous, Oslo, deux pays, à deux États. Donc à ce moment-là, moi je me suis dit, ok, si eux, ils sont d'accord, les Palestiniens, c'est chouette, ils auront leur pays, nous, le nôtre, et c'est une garantie pour nous. Force de constater que récemment, on a encore annexé une partie de la Cisjordanie, et ça continue. Donc, comment alors me dire dans ma tête, non, 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 mon destin est séparé du Palestinien, comment ?
عالمقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنسانا راق ومطابق للاشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول عالبواب الحارس جنب الجيش بيد مدارس وما بتفش نفسك لابس دم تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان شايف أم بتبكي ضناه علشان مات في الغار جعان ويساوي المقتول بالقتل بالشرف ونزاهة وحياته وتلك قضية وتلك قضية Thank you. وضع سدادة أذنين والعيلة المدفونة في بيتها ممنوع حد يخش يغدر وكأن الأرض اللي فوقيهم مش تبع الكرة الأرضية وتلك قضية وتلك قضية كيف تعيش في سجن واسع زنازين ومن نار ورماد وتقوم من تحت الأنهار تتشعل في رابلات تجمع أشلاك وتاتي وتوري الدنيا الكذابة كيف يسير قانون الغاب من أين طريق الحرية ومن أين توتى الدباب.
Liban, Palestine, témoignage d'un même espoir de paix.
Avec Maria et Fahadi, Libanais exilés.
Sur Dissonance.
D'où te vient, Fahadi, cette sensibilité pro-palestinienne, enfin, en tout cas, je ne sais pas si on va parler de pro-palestinien ou respectueuse des droits de l'homme.
Disons, on ne peut pas voir, entendre et côtoyer les souffrances comme ça. Et rester sans action. Le patriarche de Jérusalem, M. Yohann Atallah, avait demandé, y compris au pape, il a demandé beaucoup, beaucoup d'aide pour le cessez-le-feu. Je suis étonné et même, je dirais même surpris que cette personne n'ait pas médiatisé dans nos pays, ici en France, alors que c'est clair. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Les phalangistes qui étaient les plus anti-palestiniens, ils ne sont pas si anti-palestiniens, ils veulent que les palestiniens vivent chez eux, qu'ils rentrent chez eux. En ça, il y a une partie de vrai, mais bon. N'empêche, à un moment donné, leur chef, c'était Monsieur Bakradouni. Monsieur Bakradouni est d'origine arménienne. Et un jour, une journaliste, il lui dit « Mais c'est bizarre que vous présidez le parti phalangiste, il n'a fait qu'un seul mandat, et que vous êtes pro-palestinienne. » Il lui a répondu « Madame, il n'y a pas de peuple qui décide de son exode. » Et n'oubliez pas que je suis d'origine arménienne. Donc en ça, je ne sais pas que je suis pro-palestinien, je suis avec les Arméniens, je suis avec les Palestiniens, je suis avec les Libanais, je suis avec les Syriens. C'est ma nature, je ne supporte pas la souffrance des civils. Et Dieu sait s'il n'y a pas que des civils, c'est vraiment les civils qui payent la facture, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie, que ce soit en Palestine. Et puis dans ma scolarité, je suis passé par une école jésuite. On sort de l'école jésuite, je crois, selon monsieur Amin Malouf, je me trompe peut-être, je ne peux pas le garantir, il avait dit, on sort de cette école, on est croyant, mais on sait pourquoi, ou on est athée, mais on sait pourquoi. Voilà.
Dis-moi pourquoi tu es athée, alors.
Bon, disons, il y a des fois, même si je n'étais pas si athée que ça, il m'est arrivé récemment de dire, mais bon Dieu, si tu existes, fais signe. Fais un signe, parce que si maintenant tu ne fais rien, je ne sais pas comment veux-tu me ramener à toi. Voilà.
Et pour en revenir au peuple palestinien, tu es très investi dans le soutien à ce peuple.
Oui.
Comment tu t'y investis en étant comme ça à l'étranger, hors du Liban, donc à Paris?
Par exemple, j'ai fait toutes les manifs depuis 14 mois. On a fait des actions contre l'enseigne Carrefour surtout, et AXA et BNP qui sont des cibles par le mouvement BDS, boycott des investissements et sanctions, qui est un mouvement qui est très actif dans le boycott des sociétés israéliennes qui en ce moment alimentent le génocide. Donc, parce que bon, génocide, c'est pas un mot que moi j'utilise. Hein. C'est un mot qui a été utilisé par toutes les grandes instances des droits de l'homme et de la Cour internationale de justice. Et donc, j'ose utiliser ce mot. Ouais. C'est une cause qui est bien sûr légitime, parce que pour moi, c'est un peuple auquel on a volé le pays. On veut leur donner des miettes, et bien sûr, ils ne veulent pas.
Tout à fait.
Ils ne veulent pas de ces miettes. Et depuis le début, mais le narratif israélien est dominant. Donc, même moi, il y avait des aspects que je ne connaissais pas, mais j'ai beaucoup lu cette année, et je suis de plus en plus atterrée par ce que je lis, de comment ça s'est passé au début du 20e, début du 1920-1930, les révoltes et tous les massacres qu'il y a eu, le nettoyage ethnique. Il y a un excellent livre par Hélène Papé, le nettoyage ethnique de la Palestine. Et bon, c'est relié depuis longtemps. Ou Avi Shlaim aussi, un historien d'origine irakienne qui est israélien, mais tous les deux, ces deux historiens n'ont pas pu rester en Israël. Hein. Ils sont en Angleterre, ils vivent en Angleterre. Ilan Pappé et Avi Shlaim. Donc voilà. Donc pour moi, personnellement, c'est une cause justifiée parce que c'est un peuple qui. Imaginez-vous. Que vous êtes sur une table avec votre famille en train de faire un pique-nique et qu'il y a une autre famille qui vient et qui dit « Bon, maintenant, nous, on va prendre la moitié de la table. Poussez-vous. »
Est-ce que tu peux nous parler de la diaspora libanaise? Il y a combien d'exilés de par le monde?
J'ignore franchement combien, mais la diaspora libanaise, elle est particulière. On est toujours ouvert à la science, au commerce, à tout ce que vous voulez, certes, mais une partie de notre diaspora n'a pas nécessairement été brillante dans l'histoire du Liban, du début jusque maintenant, et d'autres, bien sûr, étaient à la hauteur. Je ne peux pas dire combien, mais je sais qu'il y a énormément de Libanais en dehors, et cela dure depuis très longtemps. Je pense qu'au Brésil, il me semble qu'il y a 8 millions de Libanais de souche, et là, ça n'avait rien à voir avec Israël, ça remonte. Je pense que Khalil Gibran Khalil, il était parti aux États-Unis, il était parti en Argentine ou Chili, je ne suis pas sûr de ce que je vous dis maintenant, mais c'est pour vous dire que c'est très très ancien, le peuple libanais, il a toujours voyagé. Maintenant, on voyage, mais pas nécessairement un voyage pour aller faire des affaires. C'est une valise et, pardonnez-moi le mot, je vais dire comme ça, on fout le camp.
Oui, tout à fait. Et alors, c'est un pays où il y a beaucoup d'exilés, et depuis longtemps, tu dis, mais c'est aussi un pays qui a subi énormément d'ingérences depuis, même avant le siècle zéro, avec les Phéniciens, les Grecs, après il y a eu les Romains, et maintenant...
Tout à fait, c'est pour ça, c'est un pays beau, c'est un pays magnifique, donc il séduit beaucoup de monde. Il se trouve à un point particulier entre l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud, l'Afrique, l'Asie, etc. etc. Donc culturellement, c'est un tissu mélangé avec pas mal de cultures, et les ingérences qui continuent d'ailleurs, ont toujours essayé de faire du Liban quelque chose qui, en général, ne marche pas. C'est-à-dire, on arrive, on va prendre sous ses ailes une telle fraction, qui, à un moment donné, elle va tomber par terre, et puis on recommence avec une autre, puis on recommence avec une autre, parce qu'il y a un désir du Liban, du peuple du Liban, de vivre ensemble. Et j'espère qu'ils vont enfin comprendre et qu'on va enfin vivre ensemble sans ces ingérences.
Journal d'Antenne 2 du 19 septembre 1982.
24 heures après l'annonce du massacre de plusieurs centaines de réfugiés palestiniens dans les camps de la banlieue de Beyrouth-Ouest, l'identité des coupables demeure incertaine, même si une majorité de témoignages, pour l'instant, désigne les milices du commandant dissident libanais, M. Haddad. C'est la seule incertitude à propos de ce massacre, car il y a pour le reste unanimité de ton dans le monde entier pour condamner cette horreur. Reprenons cet atroce événement par son commencement, reportons-nous en arrière pour un énoncé des faits, tels que notre envoyé spécial Daniel Bilalian nous les exposait dès hier.
Il est 8 heures ce matin quand l'armée israélienne pénètre dans le stade de Fakrani et dans les camps de Sabra et de Shatila pour y découvrir le massacre des civils palestiniens. Daniel Bilalian et Jacques Douet, qui découvrent ces corps d'enfants, de femmes, de vieillards, évaluent l'ampleur de ces exécutions sommaires. On parle de plus d'un millier de morts.
Quand il y a eu le massacre de Sabra et Shatila, comment tu l'as vécu? Comment les gens que tu connais, comment le peuple libanais l'a vécu, ce massacre?
La situation de Sabra et Shatila a été extrêmement mal vécue par beaucoup de monde.
C'est un camp de réfugiés palestiniens.
C'est un camp de réfugiés palestiniens entre le 12 et le... Non, pas le 12, le 16 et le 18 septembre 1982. L'armée israélienne prépare le terrain et des fractions libanaises, tout un temps, on disait que ce n'était pas eux, c'est les Israéliens, peu importe. Par la suite, il y a eu des écrits qui concordent tous sur qui a fait ce massacre qui était terrible. Alors, selon les Palestiniens, ils parlent de 5 à 7 000, selon l'armée israélienne, 700. Beaucoup de gens qu'on n'a pas trouvés d'ailleurs, des corps qu'on n'a pas trouvés. Et j'ai un petit souvenir. Je crois qu'un des chefs des services de renseignement généraux à l'époque au Liban, je ne sais plus son nom et son grade, mais vraiment le plus important, avait été sur des réseaux sociaux un jour et j'ai vérifié à cette époque-là l'information, elle est véridique. Il dit « Jamais j'aurais fait ça si je savais ce que ça allait donner ». Donc il regrette amèrement parce que n'oublions pas, tout le monde a coopéré pour ça. Et il y avait aussi l'armée israélienne. Ils ont collaboré ensemble. Les uns faisaient comme un balisage aux autres. Et le nombre de personnes qui ont encerclé ce camp. Et je vous rappelle, ce camp avait perdu énormément de combattants parce qu'ils étaient déjà en route pour quitter le Liban avec l'OLP vers la Tunisie ou vers ailleurs. Donc ça a été relativement facile de rentrer et de massacrer tout le monde. C'est une tache noire dans notre histoire du Liban. Tout le monde fait des erreurs, des fautes. Je pense que nous devons travailler sur nous-mêmes parce qu'on l'a fait, il ne faut pas le refaire. Ici en Europe, il y a eu la guerre mondiale, il y a eu des choses atroces. Vous vivez dans une situation qui est réconfortante de dire plus jamais ça. Et bien, au Liban, j'ai envie de dire à haute voix, plus jamais ça. Ni à l'égard des Palestiniens, ni à l'égard des chrétiens, ni à l'égard des chiites, ni sunnites, ni personne. Stop maintenant, stop.
Palestine, témoignage d'un même espoir de paix.
Avec Maria et Fahadi, Libanais exilés,
sur Dissonance.
Fahadi, est-ce que tu ne penses pas quand même que c'est l'Occident qui est responsable de tout ce qui se passe dans ce coin du Moyen-Orient? Après la guerre de 14-18, les Français, les Anglais se sont partagés ce coin. Pour les uns, c'était la Syrie, pour d'autres, c'était la Palestine et le Liban pour les Français. Et on voit ce que ça a donné, tout ça, sans respect des populations locales.
Ça serait un mensonge que dire non. Effectivement, l'Occident a une énorme part. Mais l'histoire, elle est derrière nous. Ce que je me pose... Maintenant, actuellement, immédiatement, là, aujourd'hui, hier, il y a une semaine, il y a un mois, et demain et dans une semaine, quelle sera la responsabilité de l'Occident dans le futur? Nous voyons tous les massacres que devant nos yeux, et de nouveau, on sent que l'Occident est un petit peu absent. Petite anecdote, quand j'étais gamin, on nous apprenait à l'école la mère France. Vous vous rendez compte? On disait la mère France. Aujourd'hui, certains de mes compatriotes disent « Elle est où notre mère? Qu'est-ce qu'elle fait notre mère ?» Donc ça nous fait mal au cœur, même si nous devons compter sur nous-mêmes. Presque, c'est un peu paradoxal ce que je vous dis, presque j'ai envie de dire « Non, non, laissez-nous arranger nos problèmes parce qu'on a vu ce que ça a donné. » Mais la question, elle est claire, la réponse est affirmative. Oui, l'Occident a une part. Il y a une part. Probablement que certains dirigeants n'avaient pas en tête ce qui s'est passé maintenant, mais ça revient au même. On a des drames, maintenant ça suffit, il faut faire quelque chose. Sinon, pourquoi on a fait les Nations Unies, des lois, des droits de l'homme, etc. Ils sont où? Ils sont où? On entend parler, on les a étudiés dans les livres, mais dans les faits, ils sont où? Heureusement que vous avez un avocat qui a commencé un travail énorme, M. Gilles Devers, paix à son âme, qui a quitté la France et le monde entier il y a quelques semaines, et qui a débuté des démarches simplement de légalité, de droit, de loi, que toute la planète, 190 pays au moins, avait signé toutes ces lois-là. Donc en ça, j'ai envie de dire à l'Occident, s'il vous plaît, c'est le fruit de l'évolution de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, s'il vous plaît, mettez-les en pratique.
Ici, en France, on parle de gauche, de droite, du centre. Au Liban, vous parlez de confessions différentes, des chiites, des maronites, des sunnites. Est-ce qu'il existe aussi une gauche et une droite? Et est-ce que ça a un lien avec l'histoire actuelle?
Alors, il y a toujours eu une gauche et une droite. Et c'est très, très particulier au Liban, parce que dans les années 67, je crois, après 67, bon, il y avait l'arabisme, l'idée de l'arabisme de Michel Aflaq, qui était le leader du parti Baas, et l'arabisme de M. Nasser.
C'est quoi l'arabisme?
Le parti Baas, il est un peu basé là-dessus, c'est-à-dire le monde arabe, que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite, je parle géographiquement, doit s'unir parce qu'il parle la même langue littéraire, j'entends littéraire. Bon, il y avait des différences avec d'autres partis politiques qui pensaient qu'il fallait faire morceau par morceau pour arriver un peu comme l'Europe, à une union.
Voilà. Il n'y avait pas de connotation religieuse?
Pas du tout. C'était même à l'inverse. C'est très bizarre. C'était très, très laïque. On avait à l'époque, en Égypte, en Syrie, pratiquement, et même au Liban, on avait des dirigeants de partis politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, quasi tous laïcs. Bien sûr qu'il y avait des partis confessionnels, mais ça n'avait pas vraiment son poids. Le poids de la confession ou de l'appartenance ou du mélange, j'ai envie de dire le mélange entre politique et religion, malheureusement, est venu par la suite. Quand on n'a pas réussi à vraiment créer un problème entre la gauche libanaise qui regroupait pas mal de laïcs pro-palestiniens et la droite libanaise, ben on l'a créé, la droite est devenue les chrétiens, la gauche est devenue les musulmans. C'est basique, c'est caricatural que je vous dis, bien sûr qu'il y a plus de détails que ça. Et par la suite, les musulmans sont devenus le sunnite et le chiite qui se sont battus, les chrétiens se sont battus, je crois qu'il y a eu 8000 morts entre eux, etc., etc. Donc diviser pour mieux régner, c'est la règle qui régit là-bas, voilà.
Et quels sont tes espoirs au vu de ce qui se passe actuellement à Gaza pour la Palestine?
Je suis complètement désespérée, monsieur. Si vous voulez, c'est une défaite arabe générale. Nous sommes défaits au Liban, nous sommes bombardés en Syrie, Gaza n'existe plus, l'autorité palestinienne complètement collabo est en train de s'attaquer aux résistants à Jénine en Cisjordanie. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens sont en train de mourir de faim et de bombes. Ils sont en train d'utiliser des bombes qui pulvérisent les corps en Israël. Ils envoient des robots explosifs. Ce qui se passe à Gaza est complètement mais impossible à accepter, à imaginer. Tous les matins, moi, je me réveille, je lis les nouvelles, je suis atterrée par plus de violence. Mm-hmm. Vous n'avez pas compris, avec la violence, ils disent aux Israéliens, ben, on va en mettre encore plus de violence. Mm-hmm. Il y a plus de 45 000 morts nommés, enfin, je veux dire, identifiés, là. Mm-hmm. Mais le Lancet a dit, en juillet, qu'il y avait au moins 168 000 morts, par cause directe et indirecte. Le docteur Nizam Nimod, il a dit qu'on sera au moins à 200 000 maintenant. Et il y aura plein de morts qui vont aussi... il va y avoir encore plein de morts dans ces mois à venir. Ils disent ça, le Lancet, si ça s'arrête, ils ont mis ça en juillet, si la guerre s'arrête en juillet. Nous sommes en décembre. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il y a cinq mois. Donc tous les morts d'il y a 5 mois, ils ne les ont pas pris en compte, et toutes les morts indirectes, donc de maladies, d'infections. Mais il faut voir les enfants, leur peau est complètement pleine de boutons, ils sont squelettiques, c'est horrible. Et là, tous les matins, j'ai peur pour le docteur Abou Safia, qui est à l'hôpital Kamal Ardouane, qui est bombardé, qui est ciblé. Hier, là, La salle de soins intensifs a été aussi ciblée, donc ils ont dû enlever tous les malades donc soins intensifs, je veux dire. Ils les ont pris dans d'autres salles de l'hôpital. Ils ont mis des sacs de sable, j'imagine, j'ai fait des photos ce matin. Et voilà. Et il dit tous les jours, docteur Abou Safia, qu'on n'a plus rien, on n'a plus de nourriture, on n'a plus de matériaux médicaux et on est. Et puis juste, je vous dis le pourcentage par rapport. Ils ont fait un sondage par rapport aux enfants. 96% des enfants s'attendent à mourir.
96%.
Et 46% des enfants veulent mourir.
Ah oui, d'accord.
C'est une guerre contre les enfants, comme dit Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. C'est une guerre contre les enfants. C'est un cimetière d'enfants, Gaza. Donc imaginez Gaza, 330 km2, donc Heathrow, l'aéroport d'Heathrow en Angleterre, 2,2 millions de personnes piégées, ils ne peuvent pas sortir, bombardées depuis 14 mois avec des bombes énormes, explosives de 2000 pounds bombes, ça veut dire 1000 kilos de bombes qui leur tombent dessus, qui font des cratères de 300 mètres. Et ils ne peuvent pas sortir, ils n'ont plus à manger, ils n'ont plus d'eau, ils bombardent les zones d'épuration d'eau, les stations d'épuration d'eau. Qu'est-ce que je dis ? On est écœuré, on n'en peut plus. On est beaucoup, heureusement, j'ai rencontré beaucoup de gens à Paris qui sont comme moi investis par cette cause et ça m'a sauvée en quelque sorte parce que je sens que je ne suis pas seule dans ma douleur de voir ce peuple écrasé, déchiqueté, monsieur, ils sont déchiquetés, les enfants, les femmes et puis les hommes aussi. On parle de 60-70% de femmes et d'enfants et de vieux et les hommes, ils n'ont pas le droit de vivre. Vous croyez qu'ils sont tous du Hamas? Et puis même le Hamas, c'était un gouvernement. Il y a plein de fonctionnaires qui ne sont pas des combattants. Combien de Hamas sont combattants? Je ne sais pas, c'est quelques milliers. Là, on parle de 2,2 millions de personnes qui sont bombardées jour et nuit. Ils sont brûlés vifs, ils sont déchiquetés, ils sont décapités. Ils sont pris dans des prisons en Israël, ils sont violés. Le docteur, il faut que je parle d'Adnan Bosch, qui a été pris, torturé et violé, rendu avec du sang. Je sais pas. Mais les gens ne voient rien. Les gens ici, ils sont dans leur cadeau de Noël. Les arbres partout, les gens, ils détournent les yeux. Moi, je suis avec ma kéfiyeh du matin jusqu'au soir dans les rues de Paris. Je fais ma manif tout le temps en montrant mon soutien au peuple palestinien. Et les gens, parfois, me disent « Vous avez du courage ». Et d'autres me regardent avec des regards noirs, les pro-sionistes, les pro-israéliens. Parfois, on me crache dessus, mais je m'en fous. Moi, je ne sortirai pas sans ma kéfiyeh tous les jours pour montrer mon soutien à ce peuple qui est en train d'être massacré jour après jour depuis le 7 octobre après-midi.
Merci beaucoup, Maria.
Fadi, pour finir, quels sont tes espoirs pour ton pays?
Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous espérons simplement qu'on puisse vivre ensemble, en paix, hein, une paix stable, une situation socio-économique qui revient, avec l'entité de toute la terre libanaise entière, et avec toutes les confessions et tous les partis, qu'ils soient de gauche et de droite, aspirer à un futur élégant par rapport au Liban. Et je pense que ça va commencer, et là c'est mon avis personnel, pardonnez-moi les personnes qui nous écoutent, s'il y a des Libanais, ils vont peut-être apprécier d'autres pas, mais j'ai envie de le dire quand même. Quand on pourra éventuellement dire stop à la confession sur la carte d'identité, on aura déjà mis une pierre à l'édifice, parce que ça suffit. On partait de gauche-droite, de pro-palestinien, anti-palestinien, on est arrivé chrétien-musulman, maintenant chrétien-maronite et chrétien-catholique, maintenant chiite et sunnite, et maintenant druze, et ça ne finit pas, stop. Voilà ce que j'espère pour le Liban, paix et prospérité, c'est tout.
Merci beaucoup, Fadi. J'espère que tes espoirs se réaliseront.
Merci beaucoup. C'est vraiment gentil et sympa, cette émission qui s'intéresse à mon pays. Je veux remercier particulièrement votre radio qui nous a donné un petit espace dans lequel on parle, parce que j'ai entendu dire que probablement des petites radios disparaîtraient. Pour moi, c'est une grande radio. Elle donne le droit à dire des choses que d'autres chaînes ne nous donnent pas ce droit-là. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, ce n'est pas, il ne faut pas prendre mes paroles comme paroles d'évangile. C'est mon expérience personnelle, c'est tout. J'ai partagé avec vous, c'est tout.
Salut.
Et fraternité.
التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي
وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي
وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي
أنادي